j'ai esquissé la dernière fois une histoire du XXe siècle européen du point de vue structurel, du point de vue de la sortie structurelle de la religion, pour le dire autrement encore, de l'avancée de la structuration autonome par rapport à la structuration hétéronome, cette perspective me semble indispensable pour éclairer véritablement les deux faits majeurs qui dominent cette histoire du XXe siècle européen, le surgissement des totalitarismes dans le sillage de la Première Guerre mondiale, la stabilisation des démocraties dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale. Deuxième fait généralement escamoté, alors qu'il a créé les régimes dans lesquels nous vivons, dont le fonctionnement réel n'a pas grand-chose à voir avec l'image théorique sur laquelle ils continuent de vivre, c'est du reste leur premier problème, leurs acteurs ne les connaissent pas. Ils obéissent à des règles dont ils ne comprennent pas vraiment le sens. Il faut savoir que lorsque nous parlons en Europe de démocratie libérale, nous parlons en réalité de régimes tout neufs qui ont un demi-siècle d'existence, en gros. La démocratie, je parle de la démocratie effective, est encore une idée neuve en Europe, qui cherche toujours sa juste assiette. L'avènement de la démocratie est toujours en cours, il ne faut pas se lasser de le redire, contre le sentiment répandu et entièrement trompeur de vieille démocratie fatiguée et plus ou moins sénescente. Nous avons, avec cette perspective, de quoi aborder le troisième fait majeur du XXe siècle européen, le tournant des années 1970, la révolution silencieuse de 1975. Pour combiner quelques bonnes formules qui ont pointé la portée du phénomène. Tournant lui aussi inintelligible dans sa nature, dans sa portée, dans ses conséquences, hors de cette perspective structurelle. Ce tournant, nous l'avons vu, est à comprendre comme l'ultime tournant théologico-politique de la modernité. Le tournant de la dissolution de l'alliance contradictoire entre hétéronomie et autonomie structurelle autour de laquelle a gravité l'ensemble du parcours moderne depuis le début du XVIe siècle. Nous venons de devenir pleinement moderne, c'est-à-dire autonome. Et la source profonde de nos problèmes est là, car nous ne savons pas nous servir de ces éléments de la structuration autonome devenue l'ordre profond de notre monde. Leur agencement nous égare. La stabilisation des démocraties sous les traits d'une ébauche de régime mixte a créé les conditions d'une relance ultime de la sortie de la religion, de la sortie de la structuration religieuse. D'où ce tournant qui a débouché sur une radicalisation structurelle de la modernité, dégagé du moule hétéronome à l'intérieur duquel il restait pris, les trois vecteurs structurants de l'autonomie, le politique, le droit et l'histoire ont achevé de se déployer en prenant des traits qui nous les rendent méconnaissables par rapport à ce que nous en savions. ce déploiement a disloqué l'ébauche de régime mixte qui s'était tant bien que mal trouvé. Entendons par ébauche de régime mixte une articulation entre politique, droit et histoire permettant un fonctionnement convergent, équilibré ou harmonique et maîtrisé de ces trois éléments. Leur métamorphose simultanée a produit une combinaison déséquilibrée, disharmonique et ingouvernable. Elle nous a jetés dans un monde qui nous échappe de partout, bien qu'il soit de part en part autonome structurellement. Voilà ce dont est faite au plus profond la crise de la démocratie que nous ressentons au quotidien. Une très étrange crise, une crise intime, puisqu'à la différence de la première grande crise de l'âge totalitaire, où l'enjeu était la destruction de la démocratie libérale bourgeoise au profit d'un régime censément supérieur, cette seconde grande crise, la nôtre, se joue dans un monde où le principe de la démocratie libérale est accepté de presque tous, mieux est généralement revendiqué véhémentement, ce qui n'empêche pas que sa réalité se dérobe. C'est ce que nous allons tâcher de creuser et de clarifier au cours de cette année. Cela passe donc par deux choses. D'une part, un bilan méthodique de ce que sont devenus le politique, le droit et l'histoire sous l'effet de cette radicalisation structurelle. Et d'autre part, une analyse de la combinaison qui s'est établi spontanément entre eux à la faveur de cette métamorphose. Je voudrais souligner, avant d'y venir, combien cette perspective sur l'histoire du XXe siècle s'écarte, s'inscrit en faux contre une idée que je vois s'insinuer et s'installer un peu partout, l'idée de la parenthèse. L'histoire du XXe siècle européen aurait été, au fond, une anomalie, une embardée aberrante, provoquée par l'accident de la Première Guerre mondiale, dont est sortie la Seconde. Les paroxysmes totalitaires d'un côté, la démocratie sociale d'après 1945 de l'autre côté, seraient en fait les produits hors normes, chacun à leur manière, de ce dérèglement accidentel. La chute du mur de Berlin en 1989 et le collapsus du système soviétique dans la foulée, aurait refermé la parenthèse. Nous aurions tout simplement repris depuis lors le cours normal de l'histoire, tel qu'il aurait pu se poursuivre sans cet accident d'août 1914, qui l'a dévié pour 75 ans. Le premier, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, à avoir explicitement développé cette thèse est Jean Béchler, dans un livre intitulé justement « La grande parenthèse 1914-1991 ». Le livre est paru en 1992, au lendemain de la dissolution formelle de l'Union soviétique. Le sous-titre est encore plus explicite, Essai sur un accident de l'histoire. La perspective de Bechler est essentiellement politique. L'anomalie totalitaire, une fois résorbée, les principes libéraux classiques reprennent l'autorité qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Trois quarts de siècle abominable et pour rien. Sur l'instant, l'idée n'a pas eu beaucoup d'écho. Elle a été éclipsée par la fortune de la thèse de la fin de l'histoire de Fukuyama. Mais elle a continué de faire son chemin et elle est en train de s'accréditer. Sur le terrain économique, elle est la thèse sur laquelle débouche l'analyse de la dynamique du capitalisme sur la longue durée que vient de proposer mon collègue Thomas Piketty avec le succès que vous savez. Les deux guerres mondiales, dont nous explique Piketty, ont infléchi le fonctionnement habituel du capitalisme et en particulier sa loi fondamentale qui est la supériorité du taux de profit, du rendement du capital sur le taux de croissance globale de l'économie, loi qui fait du capitalisme, si l'on y ajoute la loi de l'héritage, qui n'est pas propre au capitalisme, un producteur d'inégalités toujours plus grandes. Les retombées politiques des guerres ont entraîné un effort de redistribution réducteur de ces inégalités que produit spontanément la mécanique capitaliste, avec l'éloignement et l'estompage de ces effets, la marche du capitalisme a repris peu à peu son cours ordinaire. Et c'est ainsi que nous retrouvons, un siècle après, des niveaux d'inégalité proportionnellement analogues à ce qu'ils étaient en 1914. Cette analyse fait évidemment les délices des marxistes classiques et non classiques qui y trouvent une confirmation providentielle du bien fondé de leur fidélité à l'auteur du Capital, le vrai. Les calculs de Piketty sont repris avec volupté, par exemple, ainsi, par un contempteur radical du capitalisme comme Alain Badiou. Badiou met l'accent, lui, sur l'aiguillon qu'a représenté la peur du communisme soviétique après 1917, peur qui a conduit les régimes bourgeois ou capitalo-parlementaires, comme il dit, à des concessions qui n'ont plus lieu d'être. D'où le retour actuel à un régime d'accumulation et de concentration sans entrave du capital. De nouveau, donc, un siècle tout à fait à part, au terme duquel nous retrouvons le cours fondamental des choses, en particulier le cours capitaliste des choses, tel qu'il existait auparavant. Autrement dit, dans cette perspective, nous nous sommes pris la tête bien inutilement. Nous nous sommes échinés à déchiffrer une nouveauté du siècle qui n'était que le produit d'une série d'événements monstres, certes, mais contingents, dont les effets ont fini par se dissiper en nous ramenant à nos classiques. Ce n'est pas la moindre séduction de cette perspective que de nous suggérer que nous avons tout ce qu'il faut sous la main. Tocqueville du côté des libéraux et des conservateurs, Marx du côté des socialistes, tant réformistes que révolutionnaires, même s'il convient bien sûr de les dépoussiérer et de les actualiser. cette idée de la parenthèse me semble l'illusion par excellence du moment. Elle n'est pas sans racine. Elle a certaines apparences pour elle. Il est vrai que nous sommes dans un moment tocquevillien, où la dynamique de l'égalité des conditions acquiert des proportions qui vont bien au-delà de ce que Tocqueville pouvait anticiper sur le vu du laboratoire américain dans les années 1830. Il est vrai que nous sommes dans un moment à de certains égards marxien, où la dynamique du capitalisme, vue de haut et de loin en tout cas, semble redonner crédit par plusieurs aspects à l'analyse de Marx. L'idée de la parenthèse a les apparences pour elle. Mais la science, que l'on sache, ne consiste pas à se fier aux apparences. Elle consiste à sauver les apparences en les expliquant. Il s'agit de remonter aux raisons qui créent ce tocquevillisme et ce marxisme apparent du réel, si j'ose dire. Et lorsqu'on dégage ces raisons, on s'aperçoit très vite qu'elles relèvent d'une grille de lecture qui n'a pas grand-chose à voir, si ce n'est rien à voir, avec leurs interprétations d'origine. À tout le moins, si je pense à Tocqueville plus particulièrement, elle demande un sérieux effort d'approfondissement par rapport à leur version première. Je tiens, contre l'idée de la parenthèse, que nous avons affaire à un développement continué, qui s'est poursuivi au travers de ces accidents qui auraient pu effectivement ne pas se produire, et qui ont à coup sûr infléchi le cours des choses, mais sans modifier la substance dernière des choses. Au passage, il y aurait là matière à un bel exercice d'uchronie. Quelle aurait été l'histoire de l'Europe au XXe siècle sans l'accident de 1914 ? Non seulement il s'est passé au cours de ce siècle quelque chose d'intrinsèquement significatif du point de vue du parcours de la modernité, c'est-à-dire du déploiement de la structuration autonome, mais nous ne pouvons rien comprendre à notre situation d'aujourd'hui sans ces développements qui nous emmènent bien loin, voire parfois aux antipodes, de ce qu'était le monde en 1914. Des développements de fond qui se sont traduits, en effet, par de spectaculaires changements de direction en surface. Nous avons identifié les trois principaux. 1918, Lombardie révolutionnaire totalitaire. 1945, la stabilisation démocratique. 1975, la relance libérale, économiciste, individualiste. Mais derrière et dessous de ces changements de direction, c'est toujours le même processus qui est à l'œuvre. Ce sont les développements de ce processus qui ramènent des apparences classique. Mais si, en effet, la dynamique d'un capitalisme dégagé de toute entrave est passée au premier plan, c'est pour une série de facteurs qui, eux, ne relèvent pas d'une logique endogène de l'économie. Si l'égalité tocquevillienne revient au programme en grand, au sein, remarquons-le quand même, d'une dynamique sociale par ailleurs très inégalitaire, c'est sur la base de motifs structurels qui doivent peu à la providence qu'invoquait Tocqueville. Nous sommes ici devant un authentique choix théorique, et c'est pourquoi je le souligne. Parenthèse ou continuité de développement. Il faut parier. Car en dernier ressort, s'il y a des arguments de raison de part et d'autre, il n'y a pas d'argument décisif permettant de trancher une fois pour toutes la discussion du type de ceux que fournissent ou les preuves expérimentales ou le raisonnement mathématique dans les sciences dites dures. Dites à juste titre dures. Dures pour notre désir d'avoir raison. Car elles sont le lieu où l'on est sûr d'avoir tort. Dans le domaine humain-social, il n'y a en dernier ressort que des interprétations. Ce qui n'empêche évidemment pas qu'il y ait des secteurs d'exactitude en matière d'établissement des données et des faits. Je souligne que cela ne nous condamne nullement au relativisme, contrairement à ce que suggère la formule fameuse « Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des interprétations. Il n'y a pas de vérité au sens scientifique. » En mesure de s'imposer aux esprits de manière irréfutable, par exemple, rien n'oblige et n'obligera jamais à penser, à conclure qu'il existe quelque chose comme un inconscient. Mais contrairement à ce qu'ont conclu un certain hâtivement les demi-habiles postmodernes, cela n'empêche aucunement qu'il y ait des interprétations vraies et fausses, ou plus ou moins vraies, si vous préférez. Une partie de ces interprétations est soumise à vérification et réfutation par l'histoire. Marx soutenant que le capitalisme est miné par une contradiction insurmontable qui le voue inéluctablement à l'effondrement et au moins provisoirement réfuté par l'histoire. Mais l'histoire ne confirmera ni n'infirmera jamais l'idée qu'il y a un inconscient. Ce qui est déterminant en dernier ressort, c'est le jugement effectué par des consciences individuelles en fonction de la prime d'intelligibilité qu'apporte telle ou telle option théorique, avec les capacités de s'orienter face à la réalité et les capacités d'agir qui en découlent. C'est devant un tel choix que nous nous trouvons avec cette option sur l'intelligibilité du présent. Retour au même ou nouveauté induite par la poursuite d'un développement. Nous allons rencontrer en cours de route quelques autres de ces options. Notre sort intellectuel, c'est-à-dire notre capacité de comprendre ce qui nous arrive et d'agir en conséquence, est suspendu aujourd'hui plus que jamais à quelques paris sur lesquels tout va se jouer et dont il importe d'être conscient. Mon pari interprétatif est sans équivoque. Il s'est passé quelque chose au XXe siècle qui poursuit le parcours antérieur de la modernité et qui a transformé sans retour les termes de la condition moderne. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation entièrement inédite où les résurgences apparentes de la dynamique libérale du XIXe siècle relèvent d'effets d'optique, au demeurant très intéressants, mais des effets d'optique qu'il faut démonter pour en déjouer le piège. Tocqueville, certes, mais à condition de bien saisir que nous sommes devant un nouvel individu et surtout une nouvelle société, une société d'individus précisément, où l'égalité des conditions prend un autre sens. Marx, certainement, mais à condition de mesurer à quel point nous avons affaire à un nouveau capitalisme et surtout à de nouvelles bases politiques de ce capitalisme. L'inédit central, fondamental de notre situation, voilà ma thèse, est l'aboutissement et le parachèvement du processus de sortie de la religion. Aboutissement et parachèvement qui se sont joués à la faveur du tournant des années 1970. Parachèvement qui a libéré le déploiement de la structuration autonome dont les expressions, si avancées qu'elles pouvaient être, restaient comprimées ultimement par le moule de l'unité hétéronome. Telle est la proposition que nous avons à expliciter pour saisir dans leur cohérence les multiples visages du moment présent et pour prendre la mesure de l'immense problème au milieu duquel nous jette cette configuration structurelle. Avantage intellectuel de cette situation, elle vaut dévoilement. Elle renouvelle le paysage de fond en comble. Elle procède à une défamiliarisation radicale. Elle donne à voir des choses que nous pensions connaître sous un jour qui nous permet d'en pénétrer bien plus profondément la nature. Elle nous offre, en un mot, une chance unique de mieux comprendre ce que sont le politique, le droit et l'histoire. Sauf qu'au-delà du désarroi normal provoqué par la perte de repères familiers, la situation présente un autre aspect troublant, son aspect le plus troublant sans doute. Elle se traduit par un désarmement intellectuel auquel je ne vois pas de précédent. Elle induit un très étrange renoncement à penser. Cette résignation à l'inintelligibilité du monde est une donnée lourde de la situation spirituelle de notre temps, comme on aurait dit, en d'autres temps. Une donnée qu'il faut expliquer, tellement elle est anormale au regard de la formidable ouverture qui nous est offerte sur ce que nous questionnons depuis des siècles. Mais rien, naturellement, n'a jamais dit que les possibilités étaient faites pour être exploitées. Le cimetière de l'aventure humaine est rempli d'occasions qui n'ont pas été saisies. Mais rien ne nous oblige non plus à nous abandonner à la pente dominante. Et il faut être conscient simplement du courant contraire qu'il y a à remonter et de l'adversité qu'il s'agit d'affronter. La première chose que la situation fait apparaître avec une netteté sans pareille, pour qui veut voir, c'est que nous avons affaire avec le politique, le droit et l'histoire à trois dimensions irréductibles. Elles ne se laissent pas dériver les unes des autres ou réduire l'une à l'autre. Il est vain de faire comme si l'une était plus importante que les autres et pouvait se les subordonner, a fortiori les éliminer ou les absorber. Dans la dernière période, le marxisme a fourni l'épreuve cruciale en la matière en faisant ressortir, à contrario, l'impossibilité de résorber le politique et le droit dans le social historique. Mais l'expérience embrasse beaucoup plus large. Elle est la leçon à tirer de tout le parcours moderne. Si le terme de pluralisme peut prendre un sens profond, au-delà du simple principe de liberté des opinions, c'est celui-là. Nous avons affaire avec le politique, le droit et l'histoire à des ordres d'exigence qui ont des prétentions égales à faire valoir, si difficile que puisse être parfois leur conciliation. C'est ce que nous aurons l'occasion de regarder de près. Le politique, le droit et l'histoire correspondent à des registres spécifiques de l'existence collective. Je les ai rapidement introduites dans une séance précédente. Je les rappelle, nous allons les approfondir progressivement en examinant la teneur qu'ils en sont venus à prendre sous l'effet de la dissipation de l'unité hétéronome. Le politique regarde les conditions de possibilité de l'être ensemble. Il y a du politique, d'une part, parce que les communautés humaines ont à se faire exister, ou pour mieux dire, à s'instituer. Et il y a du politique, d'autre part, parce que les communautés humaines ont du pouvoir sur elles-mêmes. L'énigme principale de l'aventure humaine étant qu'elles ont utilisé ce pouvoir pour nier qu'elles en avaient, en renvoyant ce pouvoir au-delà d'elles. Il faut imaginer qu'elles en tiraient quelque avantage. Encore faudrait-il savoir lequel. Le droit regarde les modalités de l'être ensemble. Une fois qu'on existe, il faut encore dire comment. Il y a du droit parce que les communautés humaines ont à se définir. Elles ont à déterminer leur ordre par des règles ou des normes. Elles sont consubstantiellement des sociétés de règles. Et cet ordre, elles ont à le justifier en faisant appel à une légitimité qui rend compte des fondements de l'ordre en question. La réponse écrasante à cette nécessité a été apportée, là encore, par la religion à travers le parcours humain. La légitimité étant surnaturelle, elle fournit un fondement indiscutable et intangible, inaltérable à travers le temps, aux modalités de l'existence collective. L'histoire, enfin, regarde le registre des finalités. Une fois réglée la question de l'existence et des modalités de cette existence, il reste la question des buts que peut se proposer l'existence collective. Elle se déroule dans le temps, qui est à la fois expérience du changement, ne serait-ce que sous la forme élémentaire de la succession des êtres, de la naissance des nouveaux venus et de la disparition des anciens. Expérience du changement et ouverture sur le futur. Ouverture qui appelle la définition de fins à poursuivre et en fonction desquelles organiser l'action dans le présent. Parenthèse philosophique, l'être pour lequel il y a du temps, c'est sans doute l'être pour la mort, mais c'est aussi et d'abord l'être pour l'action. L'action étant précisément ce registre spécifique de l'existence humaine qui est projection dans un futur. Sur ce chapitre, la réponse des religions est catégorique. Il y a une fine, la réponse objective, le thème qu'elle développe. Il y a une finalité qui s'impose par-dessus toutes les autres et qui commande tous les buts que les acteurs peuvent se proposer. Cette finalité, c'est la perpétuation de l'être, de l'ordre collectif à l'identique. L'objet par excellence de l'activité collective, l'objet en fonction duquel sont mises en forme, pour commencer, ces activités nécessaires et primordiales que sont la subsistance et la reproduction biologique de l'espèce, parenté, mariage, etc. Cet objet, c'est la lutte contre les altérations, les écarts, les dégradations qu'introduisent fatalement la marche du temps et les interactions entre les acteurs sociaux dans l'ordre collectif. C'est l'objet qui s'atteste dans cette activité religieuse élémentaire et primordiale, elle aussi, qu'est le rite. Ce qui fut dans le passé, à l'origine, est la loi du présent et de l'avenir. il s'agit qu'il ne fasse qu'un. Ce que dit le rite est tout simplement cela. Ce qui a été sera. Et a vocation à se perpétuer au travers de la chaîne des générations. Bien sûr qu'il y a du changement, bien sûr qu'il y a des accidents, des vicissitudes, des adaptations imposées par l'environnement. Mais ce changement est l'ennemi pour les sociétés de religion. L'objectif est d'en neutraliser les effets par un retour aux modèles ancestraux et à l'ordre originaire. Retour dont le rite est l'outil familier et quotidien, mais retour qui peut réclamer davantage. Il peut réclamer une réactivation, une reviviscence en règle de la vérité perdue du moment fondateur. C'est le sens premier que va prendre le mot de réforme dans la tradition occidentale. Et l'un des gestes inauguraux de la modernité, la réformation de Luther, relève pleinement de ce modèle. Son ambition, c'est le retour à la primitive Église, au christianisme des apôtres, dévoyé par l'Église romaine. Autre chose maintenant sont les effets réels qu'il a produits en pensant retourner à ce modèle des origines. Vous voyez en quel sens il n'y a pas d'histoire telle que nous l'entendons dans un tel cadre. Il n'y a pas d'histoire au sens d'un devenir générateur assumé par ses acteurs. Il y a du devenir, des péripéties de toute nature, des successions, des événements qu'on peut consigner, relater, raconter dans des annales, des chroniques ou, en effet, des histoires. Mais ces récits sont indifférents du point de vue de ce qui constitue le cœur de l'existence commune. Ils appartiennent à une curiosité marginale, à un goût personnel un peu bizarre. Si histoire, au sens plein du terme, il y a eu, c'est à l'origine, avec les événements qui ont présidé à la fondation et à la mise en ordre du monde tel qu'il est. Dans le temps du mythe, dans le temps de la cosmogonie ou de la théogonie, ou encore dans le temps de la création. Là, il y a eu, en effet, devenir générateur. Mais il est d'ordre extra-humain, et qui plus est, il appartient à un temps clos. Depuis, dans le temps des hommes, proprement dit, il n'y a eu que réitération de l'ordre qui s'est ainsi fixé une fois pour toutes. Nous avons, au sein du monde chrétien, un cas intermédiaire et révélateur qui est celui de l'histoire sainte, dont le rôle a été extraordinairement important dans la culture occidentale. L'histoire sainte, c'est-à-dire l'histoire de la révélation. Depuis l'alliance de Dieu avec son peuple, Israël, relaté dans l'Ancien Testament, jusqu'à la venue du Christ et à la fondation de son Église, rapportée par le Nouveau Testament. Le cas est intermédiaire parce que cette histoire de la révélation se déroule dans le temps humain, à des dates repérables, la différence du mythe, qui est indéterminée dans sa chronologie. Mais en même temps, cette histoire de la révélation relève d'une logique de la fondation originaire du même type que celle du mythe. Elle fixe un modèle à l'intérieur duquel s'insérera tout devenir humain jusqu'à la fin des temps. Et vous aurez encore, en plein XVIIIe siècle, à Paris, avec le figurisme janséniste, une école théologique dissidente, je passe sur les détails, pour proposer une lecture des batailles religieuses de l'époque, la grande bataille entre jésuites et jansénistes, pour faire simple, à la lumière de l'histoire sainte. Cette histoire contemporaine, celle qui se joue aujourd'hui, étant à lire à la lumière des figures fournies par l'histoire sainte ou figurisme. L'histoire sainte fournit l'ensemble des figures de toute histoire possible du peuple de Dieu. Si l'on résume, en dressant le bilan, en quelque sorte, de la structuration religieuse, elle répond simultanément, d'un seul coup, à ces trois ordres d'exigences, regardant les conditions de possibilité, les modalités et les finalités. Et elle y répond en les masquant comme telles. Sa force incomparable réside dans cette cohérence qui lui permet d'assurer une liaison intime entre les différents compartiments de l'être ensemble, mais dans son cadre, il n'y a pas de politique comme telle. Les pouvoirs qui existent dans l'espace humain ne sont que des relais ou des prolongements du seul vrai pouvoir qui est celui qui émane du foyer surnaturel par lequel toutes choses existent comme elles sont. Il y a bien sûr des lois, des règles, des normes, mais elles procèdent, là encore, d'une inspiration supérieure et sacrée qui interdit d'y reconnaître un droit à part entière, au sens moderne, un droit régissant l'organisation de la communauté humaine sur ses propres bases. Et s'il y a, ô combien, une organisation de la temporalité collective, s'il y a une stricte détermination du rapport de l'existence collective à son devenir, rapport placé sous le signe de la lutte des communautés humaines avec le devenir, en vrai. Elle tourne carrément le dos à ce qui pourrait se présenter comme histoire, c'est-à-dire une auto-constitution du monde humain dans la durée, poursuivi comme un but. Ceci souligné afin de faire ressortir en regard la nature de la modernité. La modernité, c'est l'émergence du politique comme tel, du droit comme tel, de l'histoire comme tel. Émergence du politique comme tel, qui se signale par un double scandale, le scandale du pouvoir, début XVIe siècle, tel que Machiavel le révèle et le provoque, l'exercice du pouvoir, son acquisition et sa conservation obéissent à des nécessités internes à la vie des corps politiques qui n'ont rien à voir avec la morale chrétienne. Scandale du pouvoir prolongé par le scandale de l'État, fin XVIe, début XVIIe siècle, le scandale lié à l'apparition du concept d'État comme État de la raison d'État. C'est-à-dire le concept d'une autorité terrestre en charge des raisons autosuffisantes de l'existence collective, qui n'ont rien à voir avec l'insertion des corps politiques dans un plan surnaturel. Des raisons qui font de l'État une autorité à ce point souveraine dans l'ici-bas, qu'elle est fondée à se subordonner l'Église qui administre les rapports avec l'au-delà. C'est la grande bataille de l'époque. Le scandale de l'État se concentre dans la formule programmatique de ceux que l'on appelle à l'époque polémiquement les politiques. Leur formule programmatique, c'est « l'Église est dans l'État ». Émergence du droit comme tel, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, entre Hobbes et Locke, émergence non pas ici du concept de droit qui existe depuis Rome, depuis le jus romain, qu'entendre dans ces conditions par émergence du droit comme tel. Deux choses. D'une part, l'émergence de l'idée d'un fondement terrestre du droit. D'autre part, l'émergence de l'idée que ce fondement permet de concevoir une organisation complète des corps politiques. L'idée, autrement dit, que le droit n'est pas simplement un secteur particulier de la vie collective, mais un moyen de définition exhaustif de l'être ensemble. Depuis le statut des personnes et des modalités de leur rapport, jusqu'aux modalités de leur coexistence et de leur coexistence politique. Il y avait du droit que l'on appelle positif, et il écrit, coutumier, peu importe, il y avait des gens de loi pour l'administrer, des notaires, des juges. un droit largement laïque ou séculier. Il naît, encore une fois, dans le cadre romain et l'institution décisive qui le transmettra à l'Occident n'est autre que l'Église romaine, un droit positif qui constituait une technique de gestion des rapports sociaux et des litiges qui fatalement s'y déclarent. Ce droit pratique était placé sous l'autorité d'un droit théorique supérieur, touchant, lui, le fondement suprême de l'ordre des choses, c'est-à-dire la raison divine traduite en loi naturelle, que la raison humaine peut, dans une certaine mesure, discerner. Le droit positif, sous l'autorité de la loi naturelle, représentant l'adaptation contingente et variable de cet ordre parfait défini par la raison divine aux imperfections de l'ici-bas et à la corruption de la créature humaine. Selon la loi naturelle, l'interdit du meurtre est absolu, mais il y a bel et bien des homicides, et il faut définir dans ces cas-là comment on les juge, quelle est la nature des sanctions qu'on applique. Ça ne relève pas de la loi naturelle, mais de la coutume variable d'une contrée à l'autre, selon des impératifs pratiques qui n'appellent pas de justification fondamentale. L'émergence du droit comme tel peut être décrite comme la progressive abolition de l'écart entre ces deux niveaux, le droit positif et la loi naturelle. Abolition de l'écart par absorption de la loi naturelle transcendante dans le droit dit naturel, immanent. Ne connaissant d'autre fondement que celui situé parmi les hommes, est capable, en outre, de définir l'ensemble des liens et des rapports entre les hommes. Cette résorption de la loi naturelle divine dans le droit naturel est consommée avec Rousseau. Rousseau n'étant là que l'attestation intellectuelle d'un mouvement d'idées et de sensibilité bien plus large dont on a d'autres attestations. Et cette résorption de la loi naturelle dans le droit naturel est ce qui ouvre la porte à une nouvelle étape du droit effectif qui nous intéresse au plus haut point, puisqu'elle va donner nos droits de l'homme dans la dernière moitié du XVIIIe siècle. Émergence, enfin, de l'histoire comme telle. Elle se marque avec l'émergence du concept d'histoire avec un grand H, fin XVIIIe siècle, qu'a bien éclairé Reinhard Koselleck. Le concept d'histoire, soit le concept du devenir humain comme ensemble unique ou comme totalité, englobant les innombrables histoires particulières. Autrement dit, le concept bouleversant d'une dimension spécifique de la condition humaine qui est son déploiement collectif et son autodéfinition collective dans le temps. Encore une fois, ce n'est pas qu'on ignorait le changement et le devenir. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'historien pour raconter cette multitude d'événements et d'individualités plus ou moins mémorables. On préférait les très mémorables, évidemment. C'est que cette conscience du changement et ces récits d'historiens n'avaient ni la même signification, ni la même portée. L'émergence de l'histoire comme telle, c'est la découverte d'abord de ce que toutes ces histoires particulières constituent une somme, une seule histoire, pourvue de cohérence. L'histoire au singulier. C'est la découverte ensuite qu'il est possible de déchiffrer un sens, une direction, une orientation au sein de ce devenir. Le premier sens qu'on va y discerner, c'est le progrès. Aux antipodes, il faut le souligner, de la vision classique du devenir comme altération, corruption, dégradation, au regard des modèles idéaux du passé. Ce devenir est générateur. Il ajoute, il sédimente, il est le fruit de l'action humaine tendant vers le mieux et produisant un monde qui se perfectionne peu à peu. La découverte de l'histoire, enfin, la découverte de l'histoire comme telle, et c'est sa portée principale, est l'ouverture d'un champ pratique à l'action humaine, tant individuelle que collective. Ouverture d'un champ pratique à l'action humaine en direction de l'avenir. La nouveauté n'est pas que l'humanité puisse se poser des buts individuels ou collectifs. C'est une capacité qui lui est consubstantielle. La nouveauté est dans la portée de ses buts. Il regarde la construction pratique et la définition théorique par l'humanité de son propre monde. L'histoire, c'est l'humanité devenant responsable de son propre sort au travers de sa projection dans le futur. Renversement de perspective que résumera la fameuse formule que les Saint-Simoniens porteront, elle n'est pas d'eux, de la fin du XVIIIe siècle, c'est autour des années 1820 qu'elle prendra sa splendeur sur l'horizon des sociétés européennes. L'âge d'or n'est pas derrière nous, il est devant nous. Et ajoutons, ce qui change tout par rapport à la version ancienne où l'âge d'or était derrière nous, cet âge d'or qui est devant nous, c'est à nous de le faire advenir. la découverte de l'histoire comme telle, c'est la découverte du travail, c'est la découverte de la production, c'est la découverte de la pratique, de la puissance de l'action humaine, qui prend dans tous ses registres un autre statut, qu'il s'agisse de la production économique ou de l'art, des œuvres de l'imagination. Tel est ramené à ses traits essentiels le renouvellement moderne des repères constitutifs de l'existence individuelle et collective. Renouvellement résultant, encore une fois, de la sortie de la religion, du passage de la structuration hétéronome à la structuration autonome. En même temps, ce dévoilement du politique comme tel, du droit comme tel, de l'histoire comme tel, s'est effectué de bout en bout, jusque tout près de nous, dans le cadre déterminé par la structuration religieuse. Il s'est déployé à l'intérieur de l'unité hétéronome, avec pour effet important de ce maintien de la forme de l'être ensemble le sentiment d'une essentielle continuité du moderne par rapport à l'ancien. Renouvellement profond des paramètres de l'existence collective, il y a. Certes, mais on s'y retrouve. Au final, nous évoluons toujours dans le même cadre. Ce sentiment de familiarité est hautement rassurant. Sera typiquement à la source du grand optimisme libéral du second XIXe siècle, de l'âge du progrès, du peuple, de la science. À la base de cet optimisme, l'idée que l'autonomie, c'est en dernier ressort la même chose que l'hétéronomie, en beaucoup mieux. C'est le contraire des moyens de l'hétéronomie. Pour aboutir à un résultat identique dans le principe et incomparablement supérieur dans ses modalités. Et quand cette assurance de continuité vacille avec l'entrée en crise du libéralisme fin 19e, début 20e siècle, qu'à cela ne tienne, l'avenir s'offre comme le moyen de retrouver et de donner sa forme pleine, mieux encore, à cette unité compromise dans le présent. Ce sera le sens profond de l'imaginaire révolutionnaire totalitaire qui dominera le premier XXe siècle. C'est encore sous ce jour de la prégnance de l'unité hétéronome que nous trouvons le politique, le droit et l'histoire dans la démocratie stabilisée du début des années 1970. Et dans l'ébauche de régimes mixtes qui en constituent la charpente. Au milieu des évolutions et des transformations considérables qu'ils ont connues, on reconnaît toujours leur physionomie habituelle. Il faut en rappeler les grands traits pour bien mesurer ce qui va se passer avec le tournant des années, du milieu des années 1970, notre ultime tournant théologico-politique de la modernité. Le tournant de la dissolution finale de la forme hétéronome. Ce tournant va libérer le déploiement intégral de la structuration autonome et conférer un visage inédit à ses vecteurs. Force est de découvrir dans ce moment de rupture, que nous ne savions pas en vérité ce qu'était le politique, le droit et l'histoire, en dépit de la familiarité que nous avions, tant bien que mal, fini par acquérir avec eux. Et le dépaysement est tel par rapport à nos habitudes de pensée qu'il va y avoir beaucoup d'observateurs et de bons esprits pour conclure à la disparition de certains de ces éléments. Prenez la littérature d'aujourd'hui sur la vie des sociétés, il n'y a en gros que le droit et l'économie qui surnagent de ce naufrage généralisé. Pour le reste, il n'est question que d'évanouissement du politique, de disparition de l'histoire ou de fin de la société. C'est qu'en effet, jusqu'à ce moment charnière, le politique conserve pour l'essentiel ses traits de structure de commandement de l'existence collective au nom, par en haut, commandement, au nom de plus haut qu'elle. Même si le principe, ce principe de supériorité est devenu passablement flou. Le droit demeure essentiellement, et spécialement sous l'aspect des droits sociaux qu'il en est venu à prendre dans la dernière phase de stabilisation démocratique, ce qui revient justement à chacun à l'intérieur d'une collectivité dont il a pour rôle de garantir la cohésion. L'histoire demeure dans ce cadre un principe de totalisation marqué par la dette envers le passé et l'obligation envers l'avenir en direction d'un dénouement qui donnerait naissance à la société, à la somme aboutie de l'effort humain à travers le temps. Ce sont toutes ces dimensions qui constituaient le socle et le cadre de repère de la vie collective qui se sont dissipés d'un seul coup, en nous obligeant à repenser le politique autrement que comme structure de commandement, le droit autrement que comme partage, que comme distribution des parts égales entre, ou juste entre citoyens, en nous obligeant à repenser l'histoire, alors là, sous un tout autre jour, que cette unité contraignante de l'aventure humaine. C'est cette métamorphose que nous tâcherons de mieux cerner la prochaine fois. D'une part, donc en typifiant aussi précisément que possible les résultats de cette décantation des rouages de la structuration autonome, et d'autre part, en essayant de circonscrire la configuration d'ensemble qu'il dessine. Nous aurons ainsi les moyens de mieux comprendre ce qui fait de cette configuration une configuration de crise. Je préfère m'arrêter là plutôt que de m'avancer sur ce terrain de l'analyse de la métamorphose des trois éléments de la structuration autonome. Pour une fois, ça nous laissera un peu plus de temps de discussion.
Pourriez-vous préciser vos critiques à propos de Tabak Keti ? Est-ce que vous contestez les statistiques ?
Je n'ai rien dit de tel.
Non, mais quoi ? Et des patrimoines, est-ce que c'est comme le font certains auteurs américains ? Est-ce que ce sont les prévisions selon lesquelles les inégalités vont croître parce que les revenus du capital vont plus vite que les revenus salariaux ? Est-ce que c'est le traitement politique exclusivement fiscal ? Donc je vais comprendre dans.
Non, mais.
On ne voit pas ces points techniques.
Donc non,
pas
ça
bien,
va.
Je n'ai pas bien vu qu'elle est. Donc il n'a pas une prétention de. On le traite de vos marques, c'est pas lui qui le dit.
Non, mais c'est même pas une critique. Ce que j'ai formulé, c'est pas une critique, c'est une appréciation du modèle implicite de l'histoire du XXe siècle qui résulte de sa grille d'interprétation. C'est très différent. Moi, je n'entre pas dans le détail de son analyse. Si j'avais à en contester quelque chose, mais ce n'était pas mon propos, ce serait l'idée qu'il y a une loi fondamentale du capitalisme, du type de celle qu'il prétend dégager et qui me semble une parfaite chimère. Parce que c'est prêter au dit capitalisme une cohérence qu'il n'a jamais eu, qu'il n'a pas intrinsèquement et qu'il n'aura jamais. Il n'obéit pas à une loi. Il se trouve qu'il y a des circonstances dans lesquelles le mécanisme capitaliste produit tel ou tel type d'effet selon ce qui lui est en quelque sorte autorisé par la configuration dans laquelle il s'inscrit. Il n'a pas une loi interne qui le conduirait vers telle ou telle direction même. Il a des propensions, mais ça ne fait pas une loi. Mais encore une fois, moi, mon objet, c'était de faire ressortir la lecture sous-jacente de l'histoire du XXe siècle qui nous est proposée. Voilà. Il y a une bizarrerie, n'est-ce pas ? C'est ce XXe siècle où rien ne se passe comme d'habitude. Passons par là-dessus et revenons à l'ordre fondamental des choses. Voilà, ça me semble une hérésie intellectuelle absolue. Je ne m'arrête là. Après, la contestation technique de l'analyse, d'abord, je pense qu'il apporte beaucoup de matériaux qui sont exacts. Mais comme je dis toujours, vous savez, que nous retrouvions un niveau d'inégalité comparable, proportionnellement, dans des sociétés infiniment plus riches à celles à ce qu'était ce niveau d'inégalité dans les sociétés européennes ou américaines de 1914, ne donne aucune explication du pourquoi de ces inégalités. C'est tout. Et ce dont je doute fortement, c'est qu'elle s'explique par des lois internes de la dynamique capitaliste. Mais encore une fois, c'est le modèle historique qui m'intéresse.
Tu as évoqué tout à l'heure la grande parenthèse de Jean Béchler. Je me suis dit, aïe, 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 on va peut-être en train de parler de Piketty. Et oui, c'est ça l'essentiel de l'opération Piketty. Piketty est basé sur un double déni de l'originalité de l'expérience de l'après-guerre, qui n'est qu'un rattrapage. Un rattrapage de l'Europe, des États-Unis par l'Europe et par le Japon, quant à l'année, sans originalité particulière et sans spécificité particulière. Je vous fais l'économie de mon interprétation propre. Vous sachez simplement que les économistes américains, en 1945, étaient à peu près sûrs que l'Amérique allait rechuter dans la Grande Dépression, après l'effort de guerre terminé. Et ça n'a pas eu lieu. Deuxième déni, l'originalité de l'expérience libérale ou néolibérale accompli depuis maintenant près de 40 ans, avec des institutions nouvelles, une organisation nouvelle, des acteurs nouveaux, comme ces banques centrales, dont les moyens se sont extraordinairement multipliés. Bon, ce double déni définit le travail de Piketty. C'est, de ce point de vue-là, il désarme l'intelligence critique des 70 dernières années que nous venons de vivre.
Et
c'est le bonhomme d'attaque. Hein. Je ne parle pas de savoir si les chiffres ont été...
Ah oui, voilà, c'est un peu facile.
Oui, bien sûr. Je vais vous prendre un exemple, monsieur. Vous avez une capacité de production qui est de 100 au moment de la Grande Dépression. À la fin de l'effort de guerre, cette capacité de production arrive à 200. Et on se dit, comment va-t-on faire maintenant pour saturer une capacité de production de 200 alors qu'on n'arrivait pas à saturer une capacité de production de 100. Mais c'est ce qu'on a fait. Et par l'économie civile. Et donc ça veut bien dire qu'il y a eu une transformation de l'économie, une transformation des institutions qui a favorisé cette expansion de l'après-guerre. Mais Piketty le met entre parenthèses.
Oui. Non, mais c'est effectivement l'idée de parenthèse hein, qui me semble... qui me semble l'idée déterminante. Et bien entendu, je crois qu'on ne peut rien comprendre sans adopter le point de vue de la transformation. Je crois qu'on a affaire à des phases de l'histoire économique, mais plus largement de l'histoire générale, complètement différentes, où chaque fois on a affaire à un inédit. Et le fait que nous revenions à un type d'inégalité comparable à celle d'une phase antérieure de l'histoire capitaliste ne signifie absolument pas que les mécanismes à l'œuvre dans les deux moments sont du même ordre. Ça, c'est le paralogisme total. Enfin, il me semble. Voilà, je m'arrête là, moi, c'est pas...
Je vous en prie. Piketty est il me semble plus malin que ça, parce qu'il ouvre quand même le futur en particulier. Il y a un chapitre, mais que personne n'a lu, manifestement, qui s'appelle « Trop de capital tue le capital ». C'est-à-dire que le rapport entre rendement du capital et croissance, il a l'air redouté pour le futur. C'est-à-dire que, comme si finalement, c'est-à-dire qu'on ne revient pas au passé.
Il ne raisonne, entendons-nous bien, tout ce que vous dites est parfaitement exact, mais il ne raisonne pas dans l'absolu. Donc il ne dit pas c'est la même chose, mais il dit il y a une loi. Il dit que ses effets peuvent changer, mais il y a une loi. L'idée qu'on retourne à un raisonnement, qu'on interprète des phénomènes historiques à la lumière de lois, m'épouvante. J'ai bien connu le monde des lois, de la baisse tendancielle du taux de profit, de la paupérisation absolue du prolétariat, etc., etc. Quand j'étais petit, j'ai pas envie qu'on y revienne. C'est pareil le pire aspect, justement, de l'héritage marxiste.
Mais justement, il a l'air de dire que cette loi qu'il constate pour le passé pourrait très bien changer dans le futur et disparaître. Bon, voilà.
Oui, mais il n'empêche que l'interprétation qu'il propose et qui est lue, c'est le schéma de la parenthèse qui me semble un schéma obscurantiste, on peut dire, voilà. Je vous en prie.
Peut-être pour en terminer avec Piketty, vous ne croyez pas que sa force et son habileté, c'est à la fois de se servir de l'histoire et de nier l'histoire. De se servir de l'histoire, c'est-à-dire de faire ce que les économistes ne font pas souvent, c'est d'inscrire les phénomènes dans la longue durée. Et il fait des tableaux depuis l'Antiquité pour effectivement comparer le taux de croissance du patrimoine et le taux de croissance de l'économie. C'est très civilisé, cette analyse sur le long terme. Ça donne toutes les apparences à Piketty d'être un historien. Et en même temps, comme vous l'avez dit, il nie l'histoire.
Je crois.
Ouais, moi aussi.
Sur les trois thèmes, les trois notions que vous avez indiquées comme irréductibles, si on les prend deux à deux, le politique et le droit, est-ce qu'on ne peut pas considérer que le droit, c'est le moyen du politique? Si on prend le droit et l'histoire, l'histoire définissant les finalités, lorsqu'on prend le texte hiérarchique en droit le plus élevé, c'est le préambule de la Constitution, ressemble fortement à une définition des finalités. Alors peut-être que je vais poser une question ensuite qui répond peut-être à la première que je pose. Vous distinguez souvent le droit qui n'est pas le droit des juristes. Donc, je ne suis pas sûre de bien distinguer ces deux termes.
Commençons par là. Justement, dans le monde où advient le droit comme tel, ce que j'essayais de mettre sous ce terme, il y a deux registres du droit. Il y a le registre, effectivement, du fondement en droit, les droits de l'individu, pour faire court dans leur version contemporaine, qui définit le légitime, et puis il y a bien entendu des systèmes juridiques qui codifie le droit positif, qui codifie tant bien que mal cette légitimité, dont la situation nouvelle étant que le principe de légitimité a échappé aux juristes. Il est dans la société, il est dans la conscience commune, il est dans les revendications des acteurs sociaux de toute nature, à tout propos, et ce qui crée une situation juridique profondément nouvelle. D'ailleurs, dont la traduction la plus immédiate dans la période récente est le déplacement du droit du législateur vers le juge. Parce que, en fait, l'implicite de la montée du juge au regard du législateur, c'est que le juge juge en légitimité. Ce qui crée un flou, d'ailleurs, dans les opérations du droit considérable. Il avait totalement inavoué. Totalement inavoué, c'est-à-dire le juge juge en légitimité et sa légitimité est contestée par la société. C'est ça, c'est ce que les juges n'ont pas vu, et les juristes en général, c'est qu'en dans ce déplacement, le juge est jugé. Voilà, c'est fini l'autorité dernière, hein, de l'autorité de la chose jugée, ça c'est le. On peut la renvoyer au magasin des antiquités. Parce que il y a un pôle indépendant, autonome, de la légitimité qui permet de juger le droit des juristes. En conformément d'ailleurs avec à ce qu'avaient parfaitement anticipé les concepteurs de la Déclaration des droits de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme est faite pour qu'on puisse juger le droit vrai. C'est le préambule de la Déclaration des droits de l'homme. Hein. Les citoyens sont là pour comparer ce que les autorités constituées font et les principes de droit qui sont reconnus par la communauté politique. Et on y est. Ça a mis du temps, mais c'est parti. Voilà. Donc le droit dont je parle, hein, encore une fois, il est à double face parce que on a à la fois un fondement et la possibilité de définir, au nom de ce fondement, la totalité des rapports juridiques dans la vie collective. Ce qui est aussi une nouveauté. D'où la juridicisation constante qu'on observe est un effet majeur, là aussi, de la transformation récente. Alors, à partir de cet éclaircissement, je reviens à votre première question extrêmement importante, parce qu'elle touche justement à la difficulté que nous allons cesser d'explorer tout le long de cette année. La difficulté, c'est que ces trois dimensions sont irréductibles, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont complémentaires. Elles sont conflictuelles. Chacune d'entre elles ayant une prétention intrinsèque à définir le tout de la vie collective. Et c'est en ce sens qu'en effet, les finalités collectives sont contenues dans les déclarations des droits de l'homme. Elles sont définies, en gros, on peut les ramener à une chose très simple, c'est le droit au bonheur. C'est ça, le bonheur est une idée neuve en Europe. Ben oui, on a la finalité collective, on la connaît. Et c'est un changement absolument révolutionnaire. L'ensemble des sociétés du passé, elles sont animées par un but inconscient qui apparaît dedans. C'est le maintien, la conservation, la perpétuation de la société par-dessus tout autre. D'où ce qui nous semble aujourd'hui si choquant dans leur mœurs et leur indifférence, par exemple, à l'injustice, pourvu qu'elle serve un but collectif. Le but collectif par excellence étant cette perpétuation du collectif. Le reste, on s'en fout. Mais si le droit comporte intrinsèquement, en effet, cette définition des finalités, l'histoire en propose d'autres. Et pas les mêmes. Et elles peuvent être tout à fait conflictuelles. Elles peuvent s'harmoniser dans une certaine mesure, mais elles peuvent aussi entrer en conflit. De la même façon, vous avez raison, dans la bonne définition classique, qui est celle d'ailleurs de la nouvelle hiérarchie du pouvoir, le droit est le moyen du politique. C'était pas tout à fait comme ça que les libéraux classiques l'entendaient. Déjà, il y a une subversion sérieuse de ce qu'a été la définition initiale de la primauté du pouvoir législatif. Le politique est au service de la loi. Non, il est entendu pour nous tous que le politique fait les lois. Mais là, on est dans le droit au sens positif. Mais le droit a une consistance intrinsèque qui fait qu'il est très souvent, du point de vue de la légitimité, en désaccord avec la manière dont le politique utilise les lois. Conflit. Conflit donc, qui a un théâtre aujourd'hui parfaitement institutionnel avec le jugement constitutionnel. Ben, vous faites des lois, mais encore faudrait-il que ces lois soient conformes au droit. Alors, c'est un conflit qui se règle jurisprudentiellement, en général, par des compromis. Mais derrière, il y a un conflit bien plus fondamental, qui est le conflit entre des ordres d'exigence intellectuelle qui ne collent pas du tout ensemble. Et je crois qu'on peut montrer qu'un des contentieux potentiels qui s'ouvre dans notre société, c'est que, par exemple, la logique de l'État social est en contradiction avec la légitimité stricte du droit des individus tel que tendent à la traduire les cours constitutionnelles. Il y a alors ça, c'est des conflits ésotériques qui arrivent très rarement sur le devant de la scène au jour d'aujourd'hui, mais qui sont déjà patents dans l'univers politique informé. Il y a des tensions très fortes. Donc voilà, c'est ça le problème du régime mixte. C'est comment on fait pour faire tourner tout ça ensemble sans que ça diverge et sans que, en divergeant, ça crée un espace collectif totalement immaîtrisable. On y est. C'est à la fois ces liens Vous avez absolument raison. Hein, il y a des liens. Mais il y a aussi des contradictions. C'est ça dont il faut dresser la carte. Et alors, quand on entre justement sur le terrain de ce secteur très particulier qui est le secteur économique et le capitalisme, là, on voit les contradictions considérables. Qu'est-ce qu'on considère ? Ne serait-ce que le dilemme d'origine vis-à-vis de l'activité économique. C'est un processus collectif. C'est évident. Ne serait-ce que par ses retombées. Les retombées écologiques étant aujourd'hui les plus évidentes, mais dès l'époque de Marx, c'est son grand argument, évidemment, que le monde de la production est un monde collectif qui suppose une coopération d'acteurs extrêmement variés et qui intéresse le sort de la collectivité tout entière. Mais ce sort collectif est suspendu à des acteurs individuels, qu'il s'agisse de propriétaires du capital, d'entrepreneurs qui créent des entreprises ou de salariés qui ont chacun des points de vue très différents sur le but de l'entreprise qu'ils mènent en commun. C'est là que sont les contradictions au sein du capitalisme. Elles sont pas dans des lois de son cycle économique, elles sont tout simplement dans sa constitution. Et derrière, il y a des conflits de légitimité, de but collectif qui vont extrêmement loin. Donc, nous sommes dans un moment d'explosion de l'ensemble de ces contradictions relatives, associations relatives entre ces éléments. Et c'est ça qui donne l'impression d'un chaos collectif où on ne se retrouve pas.
Ça rejoint peut-être ce que vous êtes en train de dire, mais au début, vous avez fait une introduction un peu générale en parlant des acteurs qui ne connaissent pas peut-être ce que vous venez d'énoncer, ces sociétés qui obéissent à des règles que les acteurs ignorent. Et pensant qu'on serait dans des vieilles démocraties sénescentes, alors qu'en fait, on est dans ce dans quoi on est, finalement, en quelques années de
l'histoire. Oui, bien sûr. Je faisais surtout allusion, mais j'aurais dû être plus précis, à ce que je disais la dernière fois en terminant, sur la transformation très profonde des démocraties après 1945 qui en a fait des démocraties libérales dans la plénitude du terme. La difficulté, c'est que du point de vue des règles de droit, des principes de base du gouvernement représentatif démocratique, rien n'a changé. Bon, des constitutions ont pu varier, mais aussi ne pas varier. La constitution anglaise, qui n'existe pas puisqu'elle n'est pas écrite, est restée la même. Et cependant, le fonctionnement du régime britannique, comme celui de n'importe quelle autre démocratie occidentale, a complètement changé. L'esprit des démocraties et le mode de fonctionnement a totalement changé en fonction de l'état social, en fonction des attributions de l'état administratif en matière de régulation de l'économie, en fonction du changement des systèmes politiques. En fait, nous vivons dans des démocraties complètement nouvelles et très récentes qui n'ont pas leur théorie et dont les acteurs politiques, je pensais à eux de façon privilégiée, ne comprennent pas nécessairement la position dans laquelle ils sont mis, les exigences de leur rôle au regard de l'esprit général des institutions. Ce décalage est très frappant. L'exemple type étant, pour moi, dans cet esprit, le changement total d'équilibre des pouvoirs qui s'est produit, j'y faisais allusion à l'instant, en effet, entre l'exécutif et le législatif. Tous les régimes parlementaires se sont bâtis sur l'idée lockienne. Hein. Le pouvoir suprême, le vrai pouvoir dans un univers libéral démocratique, c'est le pouvoir de la loi, parce qu'il permet d'atteindre la totalité de la vie collective et parce que ceux qui font la loi sont soumis à la loi. C'est au travers de la loi, on a le moyen démocratique par excellence, puisque on n'est pas dans un ordre de commandement où ceux qui commandent ont leur raison qu'ils gardent pour eux. On est dans un ordre de l'auto-construction légale d'un ordre collectif où la règle qui est faite par tous s'applique à tous. Ça, c'est, il faut mesurer là le poids absolument fondamental de cette idée du législateur et du rôle de la législation dans l'univers démocratique. Eh bien, bel et bien, depuis 1945, partout, d'une manière ou d'une autre, chaque pays, chaque tradition juridico-politique ayant sa particularité, sa façon de faire, partout, la primauté est passée au pouvoir exécutif en fonction à la fois d'une redéfinition jamais thématisée, mais capitale, de la représentativité. Le pouvoir représentatif par excellence dans nos systèmes politiques, c'est le pouvoir exécutif. C'est une chose qui s'est imposée de cette façon, où l'expérience des leaders totalitaires a joué un très grand rôle. Le premier, d'ailleurs, dans une grande, très grande et incontestable démocratie, qui l'a compris, c'est pas un leader totalitaire, c'est le président américain, Roosevelt. C'est le premier leader démocratique qui donne, alors qu'il y a toute une ascension de la présidence américaine au XXe siècle, une histoire bien connue des spécialistes, mais avec Roosevelt, on voit émerger le leader démocratique, qui n'a rien à voir avec un leader totalitaire. Hein. Roosevelt, c'est le contraire absolu, à bien des égards, d'un leader totalitaire. C'est un homme autoritaire, par ailleurs, mais dans un esprit démocratique incontestable, et qui donne corps à cette primauté représentative de l'exécutif, qui va petit à petit infuser, après 1945, dans l'ensemble des régimes parlementaires européens et les redéfinir. Bon, problème de la représentativité et problème de la fonction du gouvernement. Un gouvernement, au sens anglo-américain du terme, il n'est pas là d'abord pour faire des lois, hein. Il est là pour piloter une collectivité dans l'histoire. Redéfinition, là aussi, jamais dite, du rôle du pouvoir, mais qui a modifié totalement la nature d'un système politique comme la démocratie libérale. Exemple d'actualité sur l'ignorance où les acteurs sont des règles et des attentes collectives en matière de gouvernement, je pense que l'expérience politique française actuelle est une parfaite démonstration de ce qu'on peut être un leader à bien des égards un homme politique à bien des égards remarquables, comme notre président de la République, et ne rien comprendre à la nature des fonctions qu'on exerce. Et ça produit des effets ravageurs dans le fonctionnement de la société politique. C'est un cas presque incroyable, parce que par ailleurs, justement, c'est pas un débile mental qu'on a propulsé là par hasard. C'est un homme de talent et de grande intelligence qui ne comprend pas le rôle qui lui est demandé d'exercer. Alors il a des tas de circonstances atténuantes, hein, je dirais un peu détaillées. Il ne s'agit pas de charger la responsabilité d'un homme. Il est dans un contexte où précisément les doctrines susceptibles d'orienter l'activité collective vers l'avenir ne sont pas flambantes. Il est dans une certaine situation politique, médiatique. Bon, tout ça est vrai. Il n'empêche qu'on voit la discordance. Nous n'avons pas l'entente. L'entente sur ce qu'est notre régime est totalement implicite et peut très bien ne pas aller jusqu'à la tête et l'esprit des gens chargés de les diriger. Alors, et ne parlons pas des citoyens qui ont aussi leur lecture de tout ça. Et là, il y a un retard, tout simplement, de la pensée sur la réalité politique installée. Ce n'est pas la première fois que ça se produit. Mais évidemment, c'est une situation dangereuse. Pardonnez-moi, je vous vois très mal en haut, donc il faut se manifester.
Politique qui ne répond pas aux attentes de ce peuple. Je voudrais bien, c'est déjà 10 ans après la publication de la condition politique, je voudrais bien savoir comment ce projet, cette entité politique est évoluée comme entité politique.
Alors, il y a deux points dans la question. Il y a le constat et les perspectives. C'est-à-dire, votre question principale, si j'ai bien entendu, c'est comment on pourrait aller vers une vision plus politique. Ça nous ramène d'ailleurs à une discussion qu'on avait dans la séance précédente à la fin à propos de la nature de la construction européenne. Le problème de la construction européenne, qui là aussi ne relève d'aucune responsabilité particulière de personne, et c'est de là qu'il faut partir, c'est qu'elle s'est faite dans un certain contexte stratégique, où le problème politique était préempté par les nécessités de la guerre froide. Il n'y avait pas à se fatiguer, la politique, là on savait très bien ce que c'était d'avoir un bloc de pays de l'Ouest européen aussi solides que possible et prospères que possible, parce que ça aide, pour faire face à l'Union soviétique. Donc, le politique, il était totalement identifié et clair dans la tête de tous les acteurs. Il se présentait sous la forme la plus classique du politique, pas seulement moderne, mais depuis... on peut le repérer dans l'histoire, c'est-à-dire la paix et la guerre. Le politique, c'est en dernier ressort l'instance en charge de la survie collective dans une situation de conflit potentiel. Du coup, la construction européenne est un moyen et a été conçue, ou s'est imposée comme, on peut discuter à l'infini sur l'intention des acteurs dans cette affaire, qui sont nombreux, ce qui ne facilite pas l'identification du problème. La construction européenne s'est définie en dehors de cette nécessité politique, qui était claire pour tout le monde. Elle est une, à la fois, nobles objectifs de paix, mais encore une fois, la guerre entre Européens de l'Ouest n'était franchement plus au rendez-vous et à l'agenda quand on avait une occupation de l'Europe par les deux plus puissantes armées du monde. On va se faire la guerre, comment? Avec qui? Avec quels moyens? La question était réglée. La question qui ne l'était pas, c'était d'organiser la coopération économique pour aboutir à une zone aussi prospère que possible dans une philosophie libérale. C'est ça qui va être, c'est la philosophie d'origine de la construction européenne à 6, avant la série des élargissements qui commence avec l'entrée de l'Angleterre dans ce qu'on appelle à l'époque le marché commun. Et de par le contexte qui se crée petit à petit, avec les réformes soviétiques, puis la disparition de l'Union soviétique, la philosophie européenne devient, par une illusion d'optique extraordinaire, qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a fait peser son poids dans toute la série des événements qui ont fixé les contours de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, elle devient implicitement, mais avec une force extraordinaire, un projet post-politique. Ben, le problème politique, il est réglé, puisqu'il n'y a plus d'affrontement Est-Ouest, puisqu'il n'y a plus de... Certes, il y a des troupes américaines stationnées sur le sol européen, mais alors, bon, personne n'en redoute rien. Et mieux, je veux dire, en gros, la plupart des Européens se disent « tout va bien, les Américains sont là, ils vont se charger de nous défendre, et nous, on peut passer à autre chose de bien plus intéressant, ça coûte cher en plus, et on n'a pas très envie, bon, tout va bien ». Déléguons à ceux qui en veulent s'en charger le soin de nous protéger. Plus de politique au sens droit de la guerre et de la paix, et plus de politique au sens de la détermination de buts collectifs au-delà de l'économie définie comme un moyen. L'économie devient une fin en soi, un moyen de cohésion collective en soi, et remplace avantageusement le politique. C'est ça que devient l'Europe de 2000, disons, au terme de la décennie de mondialisation heureuse, ou à peu près. Donc, c'est cette Europe post-politique qui se trouve aujourd'hui rattrapée par le politique. Parce que, tout simplement, elle se pensait à l'avant-garde du mouvement du monde, avec l'idée que tout le monde allait suivre cette... épopée glorieuse vers le dépassement d'une vieillerie qui nous encombrait plutôt qu'autre chose, on exite le gouvernement, la gouvernance, c'est beaucoup plus sympathique, on écoute tout le monde, on s'arrange. Le paradigme du compromis à la belge devient le modèle politique suprême. C'est très bien, certains points. Mais ça ne suffit pas, parce que les autres, ils ne sont pas du tout comme ça. Et l'Europe se retrouve géopolitiquement une contrée, d'abord inintelligible pour le reste du monde. Qu'est-ce qui leur arrive, vu des États-Unis, vu de la Chine, vu du Brésil, les gens se posent des sérieuses questions sur ce qui leur passe dans la tête des Européens et comment ils ont pu aboutir à un machin pareil. Parce que là, on est dans des entités politiques qui continuent d'ailleurs de raisonner stratégiquement. Quelle est notre position dans le monde? Quel avantage peut-on en tirer? Comment nous protéger nos intérêts? C'est le béaba dans le reste du monde de l'ordre politique. Et on s'en est aperçu dans le moment fatal des attentats du 11 septembre, quand... On avait l'impression que les États-Unis allaient converger avec nous vers un ordre post-politique. Et on s'aperçoit après le 11 septembre que c'est pas du tout de cette oreille-là qu'ils l'entendent, et on voit revenir les États-Unis comme une puissance essentiellement stratégique par rapport à une Europe qui n'existe pas stratégiquement, qui ne sait même pas... qui ne sait même pas ce que stratégie veut dire. On n'en parle plus dans le baratin des entreprises en détournant complètement le mot de son sens, mais au grand sens du terme d'origine, il n'y a plus la moindre réflexion stratégique européenne. Et ne parlons pas du fonctionnement des institutions qui se sont totalement détournées des deux contraintes que j'évoquais à propos du pouvoir exécutif à l'instant, représenter, qui se sent représenté par des institutions européennes en Europe. Représenté au sens fort. Et qui, d'autre part, peut se reconnaître dans ce qui serait une orientation générale, un projet collectif d'échelle européenne qui donnerait du sens à la contribution de chacune des unités nationales qui composent l'Union. Il y a aucun travail de coordination, aucun travail d'ailleurs de prise en compte des Là, le modèle économique a été ravageur. Je veux dire, dans un modèle politique de compromis, on part de la spécificité des intérêts qui sont autour d'une table dans une négociation pour essayer de voir comment on peut rapprocher les points de vue. Le raisonnement économique a pris le pas en Europe sous la forme de l'idée d'imposer des règles uniques, le marché unique. Voilà le modèle matriciel européen. Les mêmes règles partout, mais à des gens très différents. Ça ne peut pas marcher. Donc, là, on a une négation de ce qu'est la politique dans sa forme la plus élémentaire, qui est la pacification par la prise en compte des singularités des partenaires qui sont en cause. C'est le métier politique dans sa forme basique. Elle n'existe pas au niveau européen. Alors, il y a des compromis passés dans la coulisse de marchands de tapis indescriptibles, dont on a quelques descriptions pittoresques, le tout environné dans un charabia que les acteurs eux-mêmes ne comprennent pas, parce qu'il est, le fait de spécialistes du jargon en question qui seuls en ont le maniement. Les acteurs eux-mêmes politiques ne comprennent pas les textes qu'ils signent et qu'ils approuvent chaleureusement dans leurs déclarations publiques. Et du coup, on a un programme, si j'ose dire. Il y a un acquis européen, c'est-à-dire la construction, c'est-à-dire à mes yeux, mais on va en parler dès la séance prochaine, la découverte, qui n'est pas négligeable parce qu'elle nous en sort de beaucoup d'ornières historiques, que le principe des nations, ce n'est pas la confrontation, mais au contraire la coopération. Bon, ça c'est l'acquis européen absolu. On n'est pas là pour se taper dessus, mais pour essayer de produire un objet commun. Après, on peut discuter de la nature de cet objet commun, mais c'est ça le but. Mais il faut répondre pour ça. Donc cet acquis, on ne va pas le remettre en question. Il est là. Encore une fois, c'est le grand progrès européen. Mais il s'agit de donner des institutions politiques à cet acquis pour que tout simplement les peuples s'y reconnaissent et aient le sentiment qu'ils ne sont pas sortis d'une histoire qui se déroule ailleurs que dans le continent européen, parce qu'on en est là. Représenter et définir une perspective stratégique. Pas simple, c'est pas l'Europe de la défense qui sera toujours une espèce d'usine à gaz, agrégée des industries hétéroclites, des armées qui n'en sont pas, accessoirement, qui sont incapables, tout simplement. Malheureusement, le problème politique immédiat, c'est qu'on ne voit pas bien où sont les forces qui mettraient ce genre de projet à l'agenda. Ce qui fait qu'on est dans une situation de divorce croissant, divers, entre les peuples et ce projet européen qui ne parle plus à personne, de par la forme politique qu'il en est venu à prendre.
Dans votre tableau, il y a peut-être deux aspects que vous n'avez pas évoqués, qui sont contradictoires. C'est qu'après 91, le grand objectif de fait a été l'intégration des pays de l'Est. Et que vu de Varsovie, de Bratislava ou de Prague, l'objectif politique a été clair. On a assuré une période de stabilité politique et économique dans ces pays qu'elle n'avait jamais connue dans l'histoire. Alors maintenant, c'est acquis pour réinventer. Mais je pense qu'on oublie de dire, parce que ça n'a pas été vécu comme ça en France, qu'il y a eu un projet politique qui a été celui-là. Faute de mieux. Il y a un autre petit aspect historique que vous n'avez pas dit, parce que c'était passé, c'est que l'Europe a tout de même été faite pour réconcilier les peuples. Et maintenant, c'est acquis. Mais entre la France et l'Allemagne, c'est pas du tout.
Non, mais vous savez,
ce qui s'est passé entre 91 et maintenant, qui a tout de même été une période tout à fait positive pour ces nouveaux pays.
Premièrement, encore une fois, je pense que l'une des premières réformes que je proposerai au discours européen, c'est d'abandonner ces salades autour de l'Europe comme projet pacificateur. Parce que la paix, on n'avait pas le choix. Elle s'imposait à nous. L'armée rouge sur la ligne Oder-Neisse et l'armée américaine en face. Qu'est-ce qu'aurait... Je veux dire, on n'aurait pas eu l'intention de se réconcilier, on serait réconcilié quand même. Il se trouve que, heureusement, les données objectives de la situation et les sentiments pacifistes subjectifs des populations allaient dans le même sens. Mais, enfin, arrêtons, je veux dire, arrêtons de parler de la construction européenne comme si c'était un sympathique club qui, après 45, s'était réuni pour dire, ah ben oui, on a fait beaucoup de conneries, on va arrêter, on va faire autre chose. Mais, oui, dans quel contexte? Dans quel contexte? C'est ça, je dirais, évidemment qu'il valait mieux que ça se passe sous un signe positif, mais c'est pas ça qui était déterminant à l'époque. Et alors, vous avez tout à fait raison sur le fond, mais il faut aller, je crois, plus loin dans l'analyse pour comprendre comment cet effet indiscutablement bénéfique de la stabilisation géopolitique de l'Est européen a été en même temps effectué dans des conditions qui créent les problèmes actuels. Parce que, en pratique, à quoi avait-on affaire? C'est-à-dire à un énorme problème. En partie, l'Union européenne était faite dans une perspective stratégique définie par les États-Unis depuis le plan Marshall, comme une vitrine anticommuniste, dont l'Allemagne de l'Ouest était la pointe avancée, Berlin-Ouest, alors c'était grand comme une maison quand on y mettait les pieds, c'était de dire, de faire ouhou à ceux d'en face, en leur disant c'est mieux chez nous. Vous gagneriez à venir vous aligner sur nos normes, c'est quand même plus sympa que ce que vous vivez. Ce qui était indiscutable. Et ils en étaient bien tellement convaincus que s'il n'y avait pas eu le mur, je ne serais pas resté grand monde, à mon avis, en Allemagne de l'Est. Au bout de quelques années. Mais du coup, quand on part de cette façon, évidemment, le collapsus du système soviétique fait que nos amis de l'Est nous disent « Vous nous invitiez à rejoindre le club, eh ben c'est, on est prêt. Allez-y. » Et voilà, c'est là où commence le problème. Comment on fait? Dans quelles conditions? Tout s'est joué là. C'est-à-dire, on a fait à minima. Dans l'esprit de la social-démocratie dégénérée, qui est devenue en gros la philosophie européenne, il n'y a pas de problème que les subventions ne puissent résoudre. Hein? C'est pas la bonne manière de faire sur le plan politique. Même y compris pour la gestion de la paix sociale, on est en train de s'en apercevoir. Un peu partout en Europe. En fait, en allant au pire, on est resté dans un statu quo. On continue comme par devant. C'était évidemment l'occasion historique de redéfinir la construction européenne qui branlait déjà dans le manche à cause des élargissements antérieurs au pays de l'ALE, de l'Alliance européenne de libre-échange. Qui avait déjà l'Europe à 15, qui avait déjà profondément modifié la nature du fonctionnement de l'Europe. Fallait redéfinir une construction adaptée à un nombre très élevé de pays, très hétérogène. Au lieu de quoi, on y va tranquillement, on ne change rien, on maintient les mêmes règles, on maquille les comptes ici et là pour arranger les bidons, et puis on arrive à ce truc évidemment ingouvernable, où nous sommes aujourd'hui. Alors, il fallait anticiper. C'était pas un problème, on nous dit, à l'époque, le débat absurde était entre approfondissement et élargissement. Mais non, c'était redéfinition du projet politique européen dans un contexte géostratégique radicalement changé. Et donc, il changeait la nature de ce qu'on pouvait faire. Et la manière dont on pouvait intégrer dans cet ensemble les pays décommunisés de fraîche date. Le résultat est que on a eu une alliance de pays qui, de fait, demandaient à l'Europe de résoudre leurs problèmes politiques et économiques à leur place, ce qui n'était pas très positif. C'est ce qu'on revoit d'ailleurs exactement avec l'Ukraine aujourd'hui. Ça continue, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et d'autre part, une Union européenne enquistée dans des formes institutionnelles routinières, totalement inadaptées au nouveau contexte, mais qu'on ne veut pas changer, avec l'idée apolitique, en injectant de l'argent, ça finit toujours par s'arranger. Puisque les peuples n'aspirent qu'à une chose, c'est de meilleures conditions de vie. Ce qui n'est pas faux, évidemment. Ils préfèrent de meilleures conditions de vie. Mais, bizarrement, ils veulent autre chose. Ce qu'on ne comprend pas beaucoup à Bruxelles, mais c'est comme ça. Ils veulent autre chose, c'est-à-dire ils veulent vivre dans un cadre politique, précisément, où ils ont le sentiment qu'ils ont une certaine maîtrise de leur destin. C'est-à-dire, on a fait le choix de l'élargissement s'est fait sur le mode de la sortie de la politique. Donc, il a produit des effets concrets absolument remarquables. Et ça, on ne peut pas la songer à le nier. Au moins, ça a été, pour une fois, un investissement judicieux. C'est déjà beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Mais le résultat politique est un désastre. Et on est dans une nasse. On est pris dans un piège dont on ne voit pas l'issue.